Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotech
et préparé par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui le sociologue Gérard Rabinovitch, chercheur au CNRS, directeur de l'Institut Emmanuel Levinas, qui vient d'organiser à Nice un colloque avec le psychanalyste et universitaire Patrick Amoyel sur le thème « Islamisme radical et tentation du djihad ». C'était les 23 et 24 janvier dernier et nous souhaiterions dans cette émission à la fois revenir sur ce travail que vous avez fait sur le djihadisme et sur un ouvrage que vous avez publié il y a quelques mois, « Terrorisme résistance, d'une confusion lexicale à l'époque des sociétés de masse » aux éditions Le Bord de l'eau. Alors il paraissait important d'y revenir. Aujourd'hui, on a vu que la BBC a refusé d'employer le terme de terroriste pour l'attentat à Charlie Hebdo en disant que ce terme impliquait un jugement de valeur. Ils ont préféré utiliser le mot tireur plus neutre. Dans votre livre, vous vous attachez, Gérard Rabinovitch, à revenir sur le sens des mots. Pour cela, vous convoquez Freud, Aristote, mais aussi Victor Klemperer qui a écrit le premier sur la langue du Troisième Reich et qui a montré combien la langue pouvait être contaminée, transformée par l'idéologie. Pour vous, confondre ces deux termes, terrorisme et résistance, ou en tout cas leur supposer une forme de correspondance, c'est donner une sorte de légitimité au terrorisme ?
Ah oui, absolument, parce que de toute façon, en fait, ces deux termes auraient dû, historiquement, ils auraient dû se construire un peu comme civilisation et barbarie, c'est-à-dire dans une relation d'opposition et d'exclusion. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Du fait même qu'ils sont rentrés dans la sémantique politique moderne, à peu près à la même période historique, à l'occasion de la Révolution française. En fait, le mot « résistance » est inclus dans la Déclaration des droits de l'homme, les deux moments de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire 1789 puis 1793, et il s'agit de résistance à l'oppression. C'est le sens qu'on retrouve évidemment dans la nomination de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Tandis que le mot « terreur » est associé à la période de Robespierre, et du comité de salut public, 93-94, et le mot terreur, c'est un mot qui, chacun évidemment, avait un antécédent dans la langue française depuis plusieurs siècles. Mais le mot terreur, c'est celui de terroriser les populations pour les soumettre. Et du coup, il s'est produit quelque chose d'étonnant, c'est que les principes même de la tyrannie, puisqu'Aristote disait que la terreur, ça a été associé à la tyrannie, que c'était le mode de gouvernement de la tyrannie, les principes même de la tyrannie se sont trouvés réhabilités d'une façon scélérate au bénéfice de la révolution. Et donc, une espèce de confusion s'est installée à partir de ce moment-là. Donc, on a loupé l'opposition et l'exclusion de ces deux termes. Et cette négligence a fait qu'on est resté dans le XXe siècle avec ce mouvement-là où un certain nombre de gens viennent vous dire avec aplomb que terrorisme d'un côté, résistance de l'autre, enfin vous savez, vérité en deçà et au-delà des Pyrénées, enfin ce genre de choses. Alors qu'il y a, il y a un vrai différent à la fois éthique, éthico-pratique, sémantique, entre les deux termes.
Sur les deux, oui. Alors, c'est vrai que, vous le rappelez dans votre livre, l'association entre terrorisme et résistance, elle va se faire finalement dans les années 70 avec les mouvements d'extrême gauche qui vont revendiquer une forme de résistance contre le capitalisme et contre ce qu'ils appellent le fascisme, même si, évidemment, dans les années 70, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait pendant la guerre. Et on voit bien, aujourd'hui, à quel point cette génération des années 70 était en fait marquée par le poids de la résistance. Alors en France, c'est évidemment pas celle de Gaulle qui représentait au contraire presque l'oppresseur, mais plutôt celle de l'affiche rouge. C'est à ce moment-là que le glissement de sens va se faire, cette association.
Alors d'abord je voudrais revenir encore un petit peu en amont, mais dans le prolongement de votre question là, c'est que la première fois que le mot terroriste va rentrer dans l'espace public, d'abord, il y a dans le dictionnaire de 1798, et puis ensuite, c'est à l'occasion d'un attentat commis contre Bonaparte, et qui a ce caractère non anodin, c'est qu'il est la matrice de tous les attentats à la voiture piégée jusqu'à aujourd'hui, peut-être dans la semaine, ils sont produits quelque part dans le monde. C'est-à-dire que cet attentat qui était le fait de Chouan a consisté à mettre une charrette avec un baril de poudre. D'ailleurs, les crapules qui ont fait cet attentat ont payé une gamine pour qu'elle tienne la jument qui était attachée à la charrette en lui donnant quelques sous pour s'assurer que la charrette n'allait pas bouger à cause de l'indocilité du cheval. Évidemment, la gamine est morte dans l'attentat. Il y a eu une vingtaine de morts, une centaine de blessés. C'est le premier attentat à la voiture piégée. Si on veut dire, c'est la charrette piégée, mais c'est la matrice de tous les attentats à venir. Et évidemment, Bonaparte n'a pas été touché.
Et on les appelle à l'époque des attentateurs, c'est ça ?
Alors, pendant tout le 19e siècle, on les appelle des attentateurs. Mais le mot terrorisme apparaît dans la sémantique internationale et dans la presse internationale à cette occasion. Pendant le 19e siècle, on les appellera des attentateurs.
C'est-à-dire les anarchistes du 19e siècle ?
C'est surtout les anarchistes et les nationalistes, mais c'est principalement d'abord dans le mouvement anarchiste que la pratique de l'attentat se produit. Mmh. Au départ, et c'est toujours cette même confusion, avant d'arriver à votre question, je n'ai pas oublié. Au départ, c'est assimilé à une figure qui trouvait sa légitimité même chez Aristote, qui était le tyrannicide, c'était abattre le tyran. Donc il s'agissait de tuer un tyran. C'était un certain nombre d'attentats anarchistes qui ont été faits pour des grands de l'Europe, que ce soit des princes, que ce soit des présidents de la République ou des premiers ministres, etc. Il y a eu un certain nombre d'attentats comme ça, de nature tyrannicide. C'était qu'ils n'avaient pas accepté le pacte républicain ou le pacte démocratique qui fait que les conflits doivent être gérés dans le débat public. Et du coup, ils assimilaient l'État lui-même et ses représentants ou ses dirigeants à un tyran. C'était l'État lui-même qui devenait tyrannique parce qu'il n'acceptait pas le jeu du pacte démocratique et républicain. Cela dit, ils ont vite glissé d'un tyrannicide qui, évidemment, en démocratie, était quand même un crime. Selon les lois de la démocratie. Mais ils ont glissé de ce tyrannicide à des attentats faisant des dégâts collatéraux et puis visant des représentants de l'État, que ce soit des juges, des policiers, des soldats, et puis pour finalement faire des attentats de masse comme finalité attentatoire, c'est-à-dire des attentats dans des cafés, dans des restaurants, dans des salles de spectacle, etc.
C'est-à-dire qu'il ne cible plus
Il passe du tyran lui-même, ou celui qui est assimilé ou désigné comme étant un tyran, le fut-il ou pas, à l'attentat de masse, indistinct, touchant les civils, qui pour l'occasion peuvent être évidemment traités de bourgeois, parce que ça donne une espèce de légitimité et ça évite de se poser des questions. Mais voilà. Et or, je pense que dans l'après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale, la confusion qui s'est faite, elle est un télescopage entre, en effet, la mémoire héroïsée de la résistance et des résistants, et puis l'accumulation de toute cette histoire depuis la Révolution française, où il y a eu confusion entre terrorisme et résistance, puisque ça ne s'est pas construit de façon suffisamment distincte. La dernière chose à noter, c'est qu'évidemment, dans l'après-guerre, les mouvements d'opposition d'extrême gauche, évidemment, étaient marxistes, de quelque nature que ce soit. Et il ne faut pas oublier que Lénine et Trotsky avaient repris à leur compte aussi la terreur comme mode de gouvernement et s'identifiaient bien plus à Robespierre qu'au moment de 1789 et aux droits de l'homme.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites, on va y revenir peut-être un peu plus sur la définition de la résistance et du terrorisme, vous associez la violence au terrorisme, et on le voit, pas tout à fait, mais en l'occurrence, dans ces mouvements d'extrême-gauche terroristes des années 70, ils ne seront nulle part aussi violents que dans les anciens pays de l'Axe, c'est-à-dire les pays où a émergé une violence inouïe pendant la guerre. Est-ce qu'on peut en faire un lien?
Alors c'est une chose qu'on peut noter. C'est-à-dire que les groupes terroristes, principalement, sont nés dans cette période des années 70, en Allemagne, en Italie ou au Japon. C'est-à-dire, on peut observer quand même que c'est des anciens pays de l'Axe. C'est des pays qui ont été imprégné de fascisme ou de nazisme, quand même. Ça, c'est une chose qui est notable. Et on peut noter qu'en France, à l'exception du groupe Action Directe, les groupes d'extrême gauche ne sont pas passés au terrorisme. Et même, il se raconte et il se dit, je pense que c'est exact, que le groupe maoïste La Cause du Peuple...
La gauche prolétarienne.
La gauche prolétarienne a renoncé au terrorisme parce que... Après les attentats de Munich, d'ailleurs. Donc, il y avait un axe, je dirais, éthique, un substrat éthique, qui existait dans les pays qui avaient été victimes du nazisme et du fascisme. Et par contre, il y a eu une espèce de relance et de rebond, on pourrait supposer, dans les pays qui furent des pays de l'axe et des pays du fascisme et du nazisme. Ça, c'est indubitable.
Et qui sont des pays vaincus. Alors, on ne sait pas si, effectivement, c'est la brutalité qui a émergé pendant la guerre. Mais peut-être revenons plutôt... Donc, ça semble assez important. Ce qui différencie essentiellement le terrorisme de la résistance, ce n'est pas, donc, comme on peut l'entendre ici ou là, que le fait que les actions soient perpétrées par un groupe opprimé ou humilié, mais plutôt bien la nature même de ces actions.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai un peu tiqué quand vous avez dit... Parce que le problème n'est pas est-ce que c'est pacifiste ou violent. La violence, elle peut être légitime. Le problème, c'est comment on utilise cette violence. Les groupes de résistants en France, FTP, MOI, FFI, etc., tous ces groupes-là, ont pratiqué la violence. Ils ont abattu des soldats allemands, ils ont fait des attentats, etc. Donc, ils pratiquaient la violence. Ce n'est pas la violence en soi qui est condamnable. C'est les objectifs de la violence, les limites données à cette violence et les objectifs de cette violence. À partir du moment où la violence est un combat contre des forces authentiques d'oppression et ses représentants, elle fait partie d'un combat illégitime en démocratie, légitime quand on est face à un oppresseur. Mais... quand il s'agit d'indistinguer entre soldats, civils, entre population marginale qui n'est pas partie dans le combat et puis les vraies forces d'oppression, à ce moment-là, on est du côté du terrorisme. Voilà, c'est ça, la distinction. Le premier axe, c'est celui-là. Et pour faire simple et faire trivial, c'est est-ce qu'on s'en prend aux populations civiles ou pas je veux dire. Alors... non seulement on s'en prend dans le terrorisme aux populations civiles, mais même on les vise. On les vise de façon systématique. Je veux dire, le terrorisme attaque dans les lieux de rassemblement de populations. On voit beaucoup plus d'actes terroristes aujourd'hui qui se perpétuent dans des marchés ou dans des salles de spectacle ou dans des trains, écoles, ou dans des avions ou dans des écoles, en effet. Plutôt que la tentative du tyrannicide qui pourrait être la consonance de légitimité première d'une violence attentatoire, parce que presque jamais les attentateurs contemporains cherchent à viser directement un vrai responsable de ce qu'ils jugeraient une oppression. Auquel cas, peut-être ils perdraient en démocratie une légitimité juridique qui les mènerait en prison, ou autre forme de punition, mais il ne perdrait pas une légitimité, on pourrait dire, éthique et éthico-politique.
Et est-ce qu'on pourrait dire, dans ce cas-là, qu'il s'agit d'un crime politique, à partir du moment où on va viser, justement, les responsables? Ce serait ça aussi la différence?
Ça, c'est la différence entre l'assassinat politique et le terrorisme. L'assassinat politique reste un assassinat. Et il reste un crime en démocratie. Mais... le terrorisme lui-même, c'est une forme qui ne demande qu'à être développée pour elle-même, selon les moyens dont dispose le terroriste, de terreur. Et donc ça a bien à faire avec la terreur, et ça n'a pas à faire avec la résistance. Il y a une chose qui est importante aussi à observer, c'est que les résistants, et la résistance se distingue non seulement par les limites qu'elle met à son action, c'est-à-dire par la limitation des cibles qu'elle se donne, mais elle cherche en même temps à gagner des soutiens chez son adversaire. Dans la population adverse, elle cherche à soit neutraliser cette population contre l'action résistante, soit même à trouver des alliés dans cette population. Alors que le terrorisme, non seulement il terrorise les populations des gens désignés comme ses adversaires, mais il terrorise ses propres populations, qu'il met tout autant en danger.
Vous insistez aussi sur les liens entre terrorisme et crime organisé, qui n'a pas été le cas en l'occurrence pour la résistance, sauf peut-être quelques membres du milieu à Marseille, je crois, qui ont rejoint Gaston de Fer.
Ou même mais sinon, à Paris aussi.
En l'occurrence, ce lien-là est manifeste. D'ailleurs, vous le dites, puisque, en tout cas actuellement, le recrutement des djihadistes en France se fait largement en prison.
Oui, c'est vrai, ou dans la petite délinquance. Mais n'exagérons pas, parce que il y a un panel et un éventail tel de sans profil repérable de jeunes qui partent actuellement au djihad, qui fait que il ne faudrait pas tomber dans le réductionnisme et essayer d'assigner un endroit. Il y a des délinquants qui passent au djihadisme, il y en a qui ne passent pas au djihadisme, il y a des gens qui ne sont pas délinquants et qui vont passer au djihadisme. Donc faisons attention à ça. Par contre, en effet, vous avez raison, il y a un phénomène observable depuis les années 70 à peu près, non pas entre le milieu, la pègre, parce que de la pègre, il y a eu des gangsters collabos et des gangsters qui ont aidé la résistance. Ça, c'est donc il n'y a pas une ontologie de la pègre dans ce cas-là. Par contre, on observe depuis les années 70, en effet, une interpénétration en intérêt et une imitation en violence entre les milieux mafieux, les grands trafiquants de drogue à travers le monde et toutes les mafias, et puis les groupes terroristes. Ils s'interpénètrent en intérêt parce qu'ils s'entraident, parce que souvent les groupes terroristes se font aussi de l'argent via des trafics. Hein. Et ils s'imitent en violence parce que ça fait partie de la culture de la réalisation de la violence qu'on trouve aussi bien dans les mafias et dans le grand banditisme que dans le terrorisme. C'est-à-dire que c'est toujours une promotion, et qu'on retrouvait dans le nazisme également. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une promotion par l'aptitude à la violence. C'est ça qui fait la promotion interne dans ces groupes-là. L'aptitude à la violence. Le plus violent, c'est celui qui l'emporte toujours. Mm-hmm. Celui qui est le plus apte à la violence. Celui qui a des choix de violence les plus cruels. C'est celui qui l'emporte dans la hiérarchie, dans la montée au sein d'un appareil quelconque. On le trouve dans le nazisme, on le trouve dans le gangstérisme et dans les mafias, on le trouve dans les groupes terroristes. De la même façon, c'est un axe de morbidité qui est le discriminant de promotion. Mmh. Voilà. Il s'imite en violence, c'est-à-dire qu'on observe quand même que les décapitations sont passés du monde moyen-oriental au Mexique, par exemple.
Ah oui.
Dans les mafias et chez les trafiquants de drogue au Brésil, dans les favelas, etc. Et on voit ces imitations. Que les gangsters n'utilisaient pas, ou les mafieux n'utilisaient pas la voiture piégée, et qu'ils se sont mis à utiliser la voiture piégée. Mmh. Etc. Donc, les terroristes utilisent des systèmes de captation d'argent pour leurs propres besoins par le racket qui est propre à la mafia, et les mafieux imitent des pratiques qui sont des pratiques terroristes qu'ils intègrent dans leur propre combat, soit pour organiser la terreur dans l'espace dans lequel ils ont besoin de la tranquillité pour leurs propres opérations, soit dans les combats inter-groupes mafieux et inter-clans mafieux. Bon, voilà.
Ce qu'il y a en commun aussi, vous le signez dans votre livre, c'est la chosification de la vie humaine.
Alors ça,
je ne sais pas si le terme est exact.
Oui. C'était une des caractéristiques aussi de ce type de violence qui est toujours instrumentale et toujours chosifiante. Mais ça, c'est quelque chose qui est apparu aussi parce que tout ça n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée. Elle trouve ses racines, elle trouve ses moments séminaux de façon très épars, mais qui s'agrègent les uns après les autres dans la deuxième moitié du 19e siècle. On a parlé tout à l'heure des attentateurs, mais il y a eu aussi tout un discours et toute une sémantique scientiste qui s'est installée dans cette période-là, qui n'avait pas de lien direct avec les attentateurs, mais qui a créé une espèce d'ambiance collective, et c'est le moment où l'euthanasie, l'eugénisme s'installe, où on commence à parler et l'antisémitisme aussi s'installe. On commence à parler des juifs comme des doryphores ou des poux, où on parle de qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues, et etc., etc. Tout cette ambiance-là va déboucher ou favoriser l'extrême violence de la Première Guerre mondiale, qui est une rupture, qui est une, en tout cas c'est une cassure dans l'histoire de l'Occident, la Première Guerre mondiale. Et alors que pendant la deuxième moitié du 19e siècle, les grandes nations avaient essayé d'établir des codes de guerre, qui par exemple considéraient que les balles explosives c'était un crime. Dans la guerre, qui considérait qu'envoyer une bombe depuis un ballon, une montgolfière, c'était un crime contre l'humanité quand même. La notion, elle existait déjà, elle émergeait à ce moment-là. Donc il y avait quelque chose qui essayait de codifier la violence guerrière, parce qu'il considérait qu'en effet, la guerre était toujours éventuelle, même si on pouvait essayer de l'éviter, mais elle était toujours une possibilité. Mais si elle était une possibilité, au moins il fallait la cadrer et l'aborder.
Dans les meilleures conditions.
Or, en trois mois, la Première Guerre mondiale, tous ces codes ont explosé. C'est l'inverse qui s'est installé. Une violence inouïe, une cruauté inouïe, et en même temps, des morts en masse. Je veux dire, c'est l'installation de la mort en masse, la Première Guerre mondiale.
Alors, excusez-moi, juste pour terminer, est-ce qu'on peut revenir avec vous au monde contemporain, Gérard Rabinovitch? Vous avez participé à un travail collectif que vous avez mené sur les djihadistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et notamment sur peut-être les différents moyens d'empêcher le phénomène de se développer.
Je pense que... D'abord, il y aurait plusieurs choses à dire. On est plutôt dans une situation où il s'agit d'un travail plus de décryptage et de mise à plat. Le décryptage et la mise à plat, c'est d'abord de repérer qu'il y a un certain nombre de grandes notions ou de grandes épistémologies mainstream, comme la sociologie, le socio-économisme, etc., qui n'attrapent plus cette réalité. Il n'est pas, je veux dire, essayer de dire que c'est seulement dans les banlieues que ça se produit, c'est deux fois faux. D'abord parce qu'il y a plein de jeunes gens et de familles arabo-musulmanes qui ne vont pas au terrorisme et qui ne vont pas au djihad. Donc il faut arrêter ça, de dire, de l'assigner à cet endroit-là, parce que c'est démenti par les faits et c'est une façon d'essentialiser un milieu qui n'est pas strictement porteur de la chose. Donc... ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a bien des jeunes de banlieue, mais il y a des jeunes qui viennent des classes moyennes, il y a des jeunes qui viennent du monde musulman, mais il y a des jeunes qui viennent de monde couvert, de convertis ou de milieux athées. La seule chose qu'on peut observer dans l'état actuel, c'est que c'est des adolescents de 14 ans jusqu'à des adolescents tardifs, parce que nos sociétés contemporaines, elles ont laissé tirer l'adolescence jusqu'à 30-35 ans aujourd'hui. Donc c'est un milieu adolescent, c'est un milieu qui montre beaucoup d'immaturité, des fois de la psychopathie, mais c'est un aspect, ça ne justifie pas qu'on traite tout le monde d'aliéné, mais c'est un milieu immature, c'est un milieu qui manque d'enveloppe psychique, comme on dit en jargon psychanalytique, c'est un milieu qui n'a pas des éléments cognitifs solides, et je pense qu'il est, d'une certaine façon, quand on dit qu'il y a un manque d'intégration, je pense qu'on fait un contresens, mais ils ne sont pas... insérés dans les valeurs collectives, mais d'une part, ils montrent une très grande adaptation à tous les instruments de la communication contemporaine, ils savent très bien jouer avec ça, ils utilisent Internet, ils utilisent des caméras GoPro, etc. Bon, donc ils sont très bien adaptés à la technicité contemporaine, et à mon avis, d'une autre façon, on pourrait dire qu'ils sont le produit plutôt de quelque chose qui s'est effondré dans nos sociétés, et c'est aussi ça qu'il faut aller voir. Je pense que nos sociétés... depuis la Deuxième Guerre mondiale, ne cherchant pas à se poser les questions et à interroger qu'est-ce qui a amené ces désastres dans la société occidentale, qu'ont été la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, le fascisme, le communisme, les totalitarismes, en gros, la Shoah, toutes ces choses-là n'ont pas été abordées et suffisamment travaillées. Si elles n'ont pas été abordées et suffisamment travaillées, dans la suite de la Deuxième Guerre mondiale, dans une espèce d'indolence, ou de mobilisation sur la guerre froide, le milieu intellectuel, le milieu de la recherche, le milieu savant, on va dire, des sciences humaines, soit a esquivé le problème, soit l'a mécompris. Il l'a mécompris. Et il n'a pas pris assez soin de sauver au moins trois éléments constitutifs de la modernité, la raison, l'éthique et la liberté. On constate que la liberté, elle s'est dégradée en licence, tout est permis. La raison, c'est la raison instrumentale et la chosification. Quant à l'éthique, c'est une espèce d'angélisme bien pensant et compassionnel qui fuit toutes les réalités et toute la dureté de la réalité. Et je pense que, d'une certaine façon, ils sont le produit de ça. Mmh. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça se retourne sur nos sociétés. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Gérard Rabinovitch. J'invite donc les auditeurs à lire votre livre « Terrorisme, résistance, une confusion lexicale à l'époque des sociétés de masse » qui est paru aux éditions Le Bordelot. C'était « Mémoire vive ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.